Bonjour Gilles Savary.
Bonjour.
Alors vous avez été successivement, vous avez eu plusieurs mandats politiques, je suis dans le désordre, on va y revenir évidemment, conseiller général comme on disait à l'époque, conseiller régional, député français mais également député européen, ça fait beaucoup, beaucoup de mandats. Nous nous connaissons depuis près de 50 ans pour avoir fréquenté les bancs de l'université pratiquement en même temps lorsque vous étiez vous en pleine préparation de votre thèse de doctorat à l'IRSO qui était l'Institut d'études économiques régionales du Sud-Ouest, excellent institut d'économie dirigé par Pierre Delfaux et Claude Lacour au sein de la faculté de sciences économiques de l'Université de Bordeaux. Moi, j'étais en face, comme on disait, dans la maison d'en face, en train de préparer ma propre thèse. C'était la fin des années 70. Ma première question elle arrive immédiatement, elle va être directe, intentinée, peut-être personnelle ou provocatrice, puisqu'on a à peu près le même âge. Qu'est-ce qui vous a pris, Gilles Savary, d'écrire vos mémoires que vous avez intitulées joliment « Mémoires d'entre deux siècles »
Bah, d'abord, parce que j'ai le sentiment, j'éprouve aujourd'hui le sentiment qu'on a vraiment changé d'époque. Quand je regarde derrière moi ce qu'a été mon parcours, j'ai immédiatement, évidemment, le paysage de ce parcours qui s'impose à moi. Et je me dis que vraiment, on n'est plus tout à fait dans le même monde. Et donc, j'ai souhaité témoigner de ce monde-là à travers le fil d'Ariane de ma vie, qui n'est pas exceptionnelle du tout. Donc, ce n'est pas vraiment un ouvrage égotique. Hein. Je ne m'auto-célèbre pas dans l'ouvrage. Mais finalement, c'est une espèce de voyage à travers la vie publique et la démocratie représentative dans toutes ses dimensions, locales, nationales, européennes. J'ai pensé que ça pouvait avoir un intérêt. Au début, je ne pensais pas publier ces mémoires. Je pensais en faire simplement un document pour mes descendants et mes petits-enfants. Et puis, je l'ai fait lire à un certain nombre de collègues, dont vous, Jean Petaut, et vous m'avez encouragé à les publier. Voilà, je pense que c'est une tranche de vie d'une époque qui est aujourd'hui révolue, mais c'est aussi la rencontre d'acteurs exceptionnels, Alain Juppé, Ségolène Royal, Alain Rousset, dont j'ai suivi toute la carrière, Philippe Madrelle, qui a été mon mentor, jusqu'à les derniers soubresauts du Parti Socialiste en 2017.
Alors justement, le sous-titre de votre livre, De la Gironde à Bruxelles, c'est évidemment une trajectoire, on comprend qu'il y a une dimension de voyage. En fait, il aurait fallu, si on était plus précis, mais ça serait pas tenu sur la couverture, du Limousin à la Gironde, en effet, en passant par la Charente, l'Aquitaine, le Tarn-et-Garonne, la Gironde, Bruxelles, Paris, pour revenir, tel Ulysse, dans votre Ithaque actuel, les vignobles de Pessac-Léognan. Alors, on va démarrer par le Limousin de votre enfance, parce que là, vous signez des pages qui sont tout à fait passionnantes. Vous êtes né à Oradour-sur-Vair, en Haute-Vienne, et votre livre s'ouvre sur l'évocation de cette terre limousine dans une période particulièrement difficile, puisque vous ne l'avez pas vécu, mais c'est votre enfance au sens de socialisation primaire, comme on dit, celle de l'occupation qui se termine donc 10 ans avant votre naissance. Tous les Français connaissent le nom d'Oradour, mais il s'agit, le nom qu'ils connaissent, c'est Oradour-sur-Glane. Un gros village situé à une grosse trentaine de kilomètres au sud de votre lieu de naissance. C'est le village martyr le plus connu de France, entièrement détruit, je le rappelle, par les hommes d'un bataillon de la division d'Astreich, qui était d'ailleurs majoritairement constitué, comme on disait, de malgré nous, d'Alsaciens, hein, le 10 juin 1944, qui a causé la mort de 643 villageois. Je voudrais qu'on revienne sur les premières pages de votre ouvrage. Vous décrivez une France profonde, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est plus celle du film « La Combe Lucien » de Louis Malle, ou « Le chagrin et la pitié » de Marcel Ophuls, ou encore « Le Ranus » de Marcel Aimé, que le roman qui nous a été construit à la fois par les gaullistes et les communistes à la Libération. Évoquons ces pages d'ouverture de votre livre, parce que je trouve qu'elles disent bien des choses et elles éclairent d'une certaine façon aussi la suite de votre parcours.
Elles m'ont beaucoup structuré. C'est-à-dire que moi, je suis né dans un lieu de franche résistance, très dur, très animé, dans laquelle ma mère m'a raconté à la fois ses effrois.
Elle était postière, hein, c'est ça.
Elle était fille de la postière.
Fille de la postière, oui,
c'est ça. Et donc, elle m'a raconté tout ce qui faisait l'ordinaire d'un village très exposé, c'est-à-dire le fait que, alternativement, la milice de Pétain et la résistance occupaient la poste. Le standard qui était très important parce qu'on communiquait des faits de résistance, des exécutions sommaires, des parachutages, évidemment les privations avec le rationnement. Et donc, c'est pas ce que j'ai vécu moi, mais c'est ce qu'elle m'a raconté. Et comme moi, je suis un enfant béni de l'après-guerre, cette génération qui, véritablement, plus j'avance, plus je me dis qu'elle aurait été extraordinairement privilégiée, parce qu'on croyait que la paix était éternelle. Et donc, même si on avait des conditions matérielles qui sont sans commune mesure avec ce qu'on connaît aujourd'hui, on était parfaitement heureux et on avait un sentiment d'être protégé de tout, d'être à l'abri d'une très grande sécurité. Il y avait ce bruit de fond, quand j'interrogeais ma mère, qui était totalement dissonant avec ce qu'on m'apprenait à l'école. C'est-à-dire, bon, d'un côté, à l'école, on avait quand même une vision assez simple, une France héroïque s'est libérée des nazis
par elle-même,
voilà, et a fait partie glorieusement des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Et puis j'avais quand même, enfin tout ça ne collait pas tout à fait avec ce que ma mère me racontait, c'est-à-dire qu'il y avait des héros, oui, mais il y en avait peu. Il y avait une France qui était plutôt pétainiste à l'époque, pour des raisons de sécurité qu'on peut comprendre, d'ailleurs qui n'est pas forcément très différente de celle d'aujourd'hui. Et puis, il y avait là-dedans quelques francs héros, mais qui ont très vite été supplantés par un discours, comment dirais-je, officiel, qui m'a très vite amené, ces dissonances, à lire un peu, à regarder, et le bouquin, alors qu'il n'est absolument pas un bouquin d'historien, mais qui est quand même très significatif parce qu'il a été sèchement interdit à sa publication, le bouquin de Dutour sur Au Bombeur, mm-hmm. où là on voit, c'est une parabole évidemment, une métaphore, une famille de crémiers faire du marché noir et prospérer dans le marché noir pendant l'occupation allemande. Au passage, se débarrasser du crémier juif concurrent en le dénonçant à la Gestapo. Et puis terminé héros de la résistance, médaillé par le général de Gaulle lui-même à la libération de Paris. Donc je dis pas que c'est toute la France, parce que je ne veux pas insulter la mémoire de ceux qui ont souffert, qui ont se sont sacrifiés, qui ont été martyrisés. Il y en a beaucoup, mais en tout cas c'était quelque chose qui correspondait assez aux échos que j'arrachais de ma mère, parce qu'elle ne parlait pas beaucoup et cette génération parlait assez peu. Voilà. Donc ça m'a beaucoup structuré parce que ça m'a appris que certes il y avait l'école. Mais il fallait mettre le nez dehors si on voulait véritablement se faire une culture assez complète.
Vos origines familiales, aussi bien les vôtres, mais surtout ceux de votre épouse Nadine, qui est une famille, alors là, charentaise, mais comme on disait à l'époque, paysanne, hein, c'est vraiment des ruraux, montrent que, vous le dites d'ailleurs dans les premiers chapitres, vous êtes d'un temps où le mérite personnel, scolaire, professionnel, permettait de connaître une véritable promotion sociale. La trajectoire professionnelle de votre papa, hein, qui est au départ, comme on dit, représentant, c'est comme ça qu'on disait, pour vendre des voitures, et il termine en montant les degrés en ayant une concession automobile avec des salariés. Bon. Et ça vous a amené, cette trajectoire personnelle, parce que vous avez, on dit, un bon élève qui se révèle au fur et à mesure, à vous engager pour un cursus d'enseignant-chercheur. Vous allez l'être au hasard de l'existence 10 ans ou 15 ans après vos études supérieures, on y reviendra, en arrivant comme professeur à Sciences Po Bordeaux dans les années 90. Mais qu'est-ce qui vous intéressait dans le métier d'enseignant-chercheur ?
D'abord, j'ai toujours été assez curieux. Et je dirais que c'est presque d'ailleurs la qualité majeure de ma personnalité. Je suis curieux de tout. Et quand on commence à être curieux de tout, ben on est vivant finalement. Et puis
on absorbe.
Et donc je trouvais ça très intéressant de ne pas partir d'un cadre préétabli pour pouvoir essayer de faire avancer la connaissance. Donc ça m'a énormément plu. Mais à l'origine de tout ça était, c'est un des titres du chapitre, était ce qui était la philosophie de ma modeste famille modeste mais heureuse, hein, pas parce qu'on est modeste que l'on n'est pas heureux, qui était de se faire une situation. Après-guerre, quand on était dans le peuple, une des obsessions, c'était de se faire une situation. À l'époque, il y avait une espèce de vague de progrès généralisé dont tout le monde bénéficiait, du sol au plafond. On avait des taux de croissance considérables, les boomers, et puis la croissance des Trente Glorieuses, et même les classes laborieuses ou les classes populaires. Mon père, vous l'avez dit, mais mon père, avant d'être vendeur de voitures, il avait été orphelin à 3 ans, ouais. Ni père, ni mère, ni sœur. Ouais. Hein, voilà. Et comme ceux qu'il avait recueillis ne pouvaient pas subvenir à ses besoins, ils l'ont engagé volontaire en Indochine. Ouais. Donc il est arrivé dans la famille, il n'est pas un centime. Je n'ai pas hérité de mon père, de rien, de quoi que ce soit. Et donc, il y avait chez moi une espèce d'énergie vitale qui était effectivement de s'en sortir. Tout simplement de s'en sortir avec des valeurs qui m'ont naturellement imprégné, qui sont le mérite, le travail, l'honnêteté scrupuleuse, hein, ce qu'on doit, on le doit, ce qu'on dépense pas plus que ce que l'on gagne, enfin des choses qui paraissent aujourd'hui d'une trivialité absolue et même totalement décalées, même ringardes, mais en tout cas qui ont permis de guider mon parcours et fait que, à la fois à l'université, j'ai commencé à faire mon trou et puis. J'avais à peine commencé à le creuser, que j'ai été happé par la décentralisation. Et donc, j'ai un parcours qui est totalement hasardeux, chanceux, enfin totalement aléatoire. Rien n'était programmé. Vous savez, chez moi, le plus grand diplôme, c'était celui de ma mère, qui par ailleurs était assez solide, hein, puisqu'elle connaissait bien sa géographie, son histoire, mais c'était le brevet des collèges. Il n'y avait pas de bouquin. Donc, j'ai fait mon éducation par la radio, essentiellement, par la radio et cette espèce de moteur de curiosité qui faisait que j'essayais de tout happer dans une petite ville de province qui était Sainte en Charente-Maritime. Moi, je suis quelqu'un de... C'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre, c'est que je suis finalement heureux d'avoir le parcours de vie impromptu et totalement non planifié qui a été le mien. On ne savait pas ce qu'il y avait à l'université, chez moi. On ne connaissait pas les filières. On ne savait pas qu'il y avait Sciences Po, qu'il y avait Sciences Éco débouché sur... On ne savait pas trop. Donc, je suis arrivé à l'université. D'ailleurs, vous avez vu, au début, j'ai navigué.
Oui, oui.
J'ai fait un tour en géographie, un peu en physique. Je ne savais pas trop. Je suis rentré comme dans une auberge espagnole. Puis finalement, je me suis réfugié auprès de quelques copains de Sainte qui étaient en Sciences Éco, où là, j'ai pas mal réussi à faire mon trou, oui.
Et puis, vous dites, je suis happé par la décentralisation. Là aussi, vous parliez du hasard. Il se trouve qu'étant à l'IRSEAU, vous avez un contrat, une vacation, comme on dit, pour travailler, si je me souviens bien, sur les conséquences économiques de l'implantation de la centrale de Brossaint-Louis.
Fiscale, notamment.
Fiscale, oui. Ça vous fait rencontrer Bernard Madrel.
Oui.
Et puis, là, on est en 79, 80, 81, ce qu'il faut aussi vivre, hein, faire bouillir la marmite. Et en 81-82, c'est le début d'une première aventure. C'est la création, en tant que collectivité territoriale, on va dire, de plein exercice, ça existait avant comme établissement public régional, de la région. Et là, vous intégrez une structure qui est assez étonnante. C'est un cabinet, avec un directeur de cabinet qui a à peu près le même âge que vous, mais lui, il a fait Sciences Po Paris, il s'appelle Alain Rousset, et vous allez y retrouver Alain Anziani, Robert Gilardi, Volsilesca...
François Deluga, ouais.
Vous êtes une petite équipe, installé à l'hôtel de Sège, comme on dit, l'ancienne préfecture, derrière le Grand Théâtre. Alain Rousset, son bureau, on comprendra plus tard, c'est celui d'un ancien secrétaire général de la préfecture à l'époque de l'occupation, qui s'appelle Maurice Papon. Mais vous êtes tout jeune, vous avez entre 25 et 30 ans.
C'est ça.
C'est ça, voilà.
C'est l'ancienne préfecture, donc derrière le Grand Théâtre, historique. Et la décentralisation a été pour moi, victoire de Mitterrand d'abord, la décentralisation, une aspiration, c'est-à-dire un de ces moments qui sont assez aléatoires, où dans la politique, il y a des ruptures qui aspirent de nouvelles élites, alors que toutes les autres, ont verrouillé en général les filières et les systèmes. Donc là, la régionalisation survient, la région n'avait pas de service, à la différence des communes et des départements, donc... Dans les départements et dans les communes, décentralisation s'est faite par transfert de services de l'État qui existaient, pas la région. Donc c'était Madrel qui était aux affaires. Il a fallu que les textes tombaient de compétences. Il a fallu s'organiser. Et donc la région est née d'un petit commando initial qu'a organisé autour de Philippe Madrel le jeune Alain Rousset, arrivé là par André Labarrère. L'ancien maire de Pau qui venait de partir
au gouvernement. Le prédécesseur de Philippe Madrel.
C'était le prédécesseur, voilà, et qui avait été appelé au gouvernement. Oui. Et donc là, les hauts fonctionnaires de l'État n'étaient pas intéressés du tout par la décentralisation. Elle était pour eux péjorative, si je puis dire. Ils étaient un peu traumatisés, d'ailleurs, d'avoir perdu le pouvoir. Donc, il a fallu constituer des équipes locales. Et ça s'est fait par deux filières. Il y a eu une filière Rousset, qui a fait venir quelques copains parisiens, dont un très proche, qui nous a quittés, auquel j'ai dédié ce livre. C'est Alain Ziani. Et puis, il y a eu la filière locale. Et là, ça arrivait par Madrel, qui a interrogé l'Institut d'économie régionale du Sud-Ouest, Et Pierre Delfaux a dit, ah bon, j'ai des types, là, quand même, bon, on n'aura pas de carrière pour tous, c'est compliqué. À l'époque, les carrières à l'université étaient très longues.
Universitaire, oui, c'est ça.
Voilà. Et donc, on a proposé à certains d'entre nous, et donc Robert Guillardy est parti, et moi-même, je suis parti près de Madrelle. J'avais en outre le support de son frère, Bernard Madrelle, pour lequel j'avais travaillé de l'université, sur, il était député du Blayais, sur l'impact fiscal de la future centrale. On a vu se construire la centrale de Bruay-Saint-Louis à cette époque.
Un de vos premiers ouvrages a été justement l'analyse de ces premiers temps de la décentralisation par les conseils régionaux. Hein. Vous l'avez écrit avec un élu, je crois, de l'Aisne, si je me souviens bien. Du département de l'Aisne.
Les ouvrages que j'ai écrits, je les ai faits à ma signature propre. Le premier ouvrage que j'ai écrit, c'est Naissance d'une région, rue Esprit des Lois.
Oui, mais c'était tout seul là. Oui, voilà. Tout seul. Et après, vous avez écrit un livre à deux sur la région. Je me souviens de ça. Oui.
On a fait un petit livret pour le Parti socialiste à l'époque avec Jean-Pierre Baligan.
C'est ça. Voilà. Jean-Pierre Baligan. Je cherchais le nom. Donc Naissance d'une région, ça vous l'écrivez évidemment et vous revenez sur cette histoire. Qu'est-ce que vous avez retenu? Parce qu'en fait, vous alliez y être pratiquement 4 ans hein, dans cette structure qui est le cabinet. Les principaux enseignements, parce que c'est quand même assez exceptionnel, d'être dans les premiers temps et de suivre les premiers pas d'une institution.
Bah, d'abord, moi qui venais du peuple et qui était observateur de la vie politique, j'arrive dans un cabinet, m'aperçois d'abord de l'emploi du temps absolument frénétique et écrasant auquel sont soumis à la fois les élus et les cabinets. On est en dehors de l'ordinaire. On n'a pas de week-end ni de jour férié. C'est l'actualité qui commande. Il faut se démultiplier partout sur le terrain, des sollicitations un peu de tous les instants. Donc ça, c'est le premier enseignement. C'est quand même quelque chose d'extrêmement envahissant. Et donc, j'y ai participé. Mon épouse vous dirait que ça n'a pas été la période la plus confortable pour elle-même, parce que sans son consentement et le fait qu'elle assurait tout, absolument tout au foyer, c'était pas possible de fonctionner comme ça. Donc j'ai appris ce qu'était la servitude, quelque part, d'un collaborateur de politique. Et c'est encore le cas aujourd'hui dans les cabinets ministériels. Et c'est le cas de la haute fonction publique. Les gens sont réveillés parfois à 2h du matin. Elisabeth Borne savait faire ça. Allô, vous, est-ce que vous avez réglé la question? Donc c'est vraiment une très grande servitude. Le deuxième enseignement, c'était la découverte de la haute fonction publique d'État en vis-à-vis, et là, de sa qualité extraordinaire. On critique beaucoup les technocrates, mais on a une fonction publique d'un très haut niveau, d'un grand niveau de dévouement, mais d'un très haut niveau également. Et puis, ça a été l'apprentissage de l'irrationalité de la politique, l'irrationalité fondamentale de la politique. Je veux dire, très vite, vous êtes vite désillusionné sur vos idées simples. D'abord parce que la politique est irrationnelle et les hommes politiques sont irrationnels parce que la population l'est. Elle vous demande une chose et son contraire. J'en ai déduit que la politique, c'était un métier à part entière. Parce que ça n'était pas simplement la gestion rationnelle des affaires publiques, c'était la gestion des émotions publiques. C'était la gestion des passions humaines. Un grand politique, c'est quelqu'un qui sait endiguer les passions humaines, les gérer. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend dans aucune école. Il y a de très grands politiques qui ont de très faibles diplômes. Philippe Madrelle.
Ouais, on va y revenir.
Et, voilà. Et il y a de très grands diplômés qui sont assez faibles en politique. De son propre aveu, bien qu'il ait fait une carrière non négligeable, mais c'est une carrière très, comment dirais-je, très soutenue par, presque d'héritier. Alain Juppé n'est pas un pur politique. Il a beaucoup de difficultés avec tout ce qui est irrationnel.
Alors irrationnel, mais aussi parfois et très vite ingrate, puisque votre première expérience électorale, votre baptême du feu électoral, sont les élections de la région. Le conseil régional au suffrage universel, les premières du genre, on est en mars 86. Elles sont couplées, ces élections, avec les législatives de 1986. Et là, vous vous présentez, alors que vous êtes déjà, on y reviendra, vous êtes déjà parti parce que il y a eu un changement politique qui vous a fait vous êtes retrouvé au chômage en 1985. Vous êtes parti en Tarn-et-Garonne, on va y revenir, travailler auprès de Jean-Michel Begley, mais vous êtes candidat, comme on dit, tête de liste départementale, ça fonctionnait comme ça, pour une liste qui s'appelle le RRR et qui est en fait autour des radicaux de gauche.
Aquitaine aujourd'hui.
Et qui, Aquitaine, ça c'était le nom. Hein,
Aquitaine aujourd'hui.
Aquitaine aujourd'hui. Et le leader politique, c'est quelqu'un qui d'ailleurs a été victime d'un règlement de compte politique, c'est Dutoya, maire d'Air sur l'Adour. Là, c'est la suite d'une bise-bise avec Henri Emmanueli dans les Landes, avec les conséquences que ça va avoir. Et vous êtes rendu compte que les élus, un certain nombre d'élus, vous ont pas vraiment tendu la main pour récupérer le cabinet de Madrelle en 85.
Si j'ai été candidat en 86, c'est toujours mauvais conseilleur. Je suis pas fier forcément de tout ça. C'est à partir d'une amertume.
Oui, c'est ça.
C'est à partir d'une amertume. En 85, Chaban reprend la région.
Dans les circonstances qui relèvent du roman, c'est passionnant.
Il faut
lire les pages.
Parce que c'est
un récit,
c'est absolument incroyable. Mais c'était un pur politique. Ouais. Lui, c'était un pur politique. Et donc, nous étions à nos postes au cabinet rue Esprit des Lois ce jour-là, et on s'aperçoit que nos élus socialistes débandent. Ne vont même pas rendre une visite de courtoisie à Chaban pour lui dire j'aimerais que vous protégiez mes personnels. À l'époque, nous n'avions pas de statut, la fonction publique territoriale n'existait pas, les cabinets régionaux étaient non identifiés et nous n'avions même pas droit au chômage. Mmh. Voilà. Donc nous étions tous des contractuels.
Il faut rappeler ça, parce que
nous n'avions pas droit au chômage. Et tous nos élus, avec lesquels nous avions fonctionné, que nous avions servi avec ardeur pendant 3 ans, ne passent même pas dire un mot pour les secrétaires. Il a fallu que je vienne sauver ma secrétaire.
Du coup de balai.
Du coup de balai qui était mis en place par Chaban et ses équipes et par André Burgos, puisque c'est comme ça que ça fonctionnait. C'était pas des enfants de cœur.
C'était son directeur de cabinet à la ville de Bordeaux.
Oui, c'est ça. Et donc, j'ai été quand même très choqué de cette attitude, naïvement. Je me suis dit, c'est quand même extraordinaire quand on a servi des gens loyalement de se retrouver largué et qu'il n'y en ait pas un qui joue de son statut d'élu. La plupart étaient battus à la région, mais encore, ils avaient un mandat. Ils étaient soit sénateurs, soit députés. Enfin, je veux dire, c'était pas. Donc ça a été la première désillusion et la grande amertume. Mais comme j'étais pas au PS, je me considérais comme un homme libre. Deuxièmement, j'avais travaillé avec Alain Dutoya, qui était une personnalité remarquable, qui avait été collaborateur de Pierre Mendès France à son cabinet.
Oui, j'ai dit Air sur l'Adour, c'est à Jettemau.
C'est à Jettemau, voilà.
Ah, pardon, oui.
Et qui en réalité était, très stigmatisé par Emmanueli, qui pouvait pas supporter la moindre opposition dans son département. Et donc Emmanueli a fait en sorte de mettre en place une liste régionale. Première liste régionale en 86, où il faisait en sorte d'éviter que Dutoya y soit en position éligible, alors qu'il avait fait un boulot terrible à l'économie. Et surtout, ma grande surprise, ni Alain Rousset ni Alain Anziani, qui étaient des socialistes, eux, Gironda,
et qui auraient très bien pu,
qui étaient les premiers à avoir une compétence régionale, n'avaient été approchés non seulement pour constituer la liste, mais même pas pour faire campagne. Donc, si vous voulez, on était complètement liquidés, rayés de l'histoire. Alors, quand Dutoya m'a dit, écoute, on va faire une liste parce que il faut que les radicaux existent et que l'on présente une alternative, on arrivera peut-être à capter du centre-gauche. Et sur la liste, c'était une liste régionale, mais départementalisée à l'époque. Est-ce que tu peux pas faire tête de liste? Parce que, bon, je vois guère que toi pour entraîner les choses là-dessus, sur la Gironde. J'y suis allé. Ça a été une expérience absolument remarquable. J'en parle d'ailleurs. Je parle comment, quand on n'appartient pas à un grand parti, il est difficile de faire une campagne. Voilà. Oui. Et donc, on a fait autour de 2%, glorieusement.
Mais c'est un peu votre initiation.
Ah, c'est totalement initiatique, bien sûr. Totalement initiatique au combat électoral, oui.
Alors, un autre genre d'initiation, si je puis dire, ça va être le passage que vous allez faire, et ça va durer finalement un peu de temps, puisque étant au chômage, vous êtes finalement, vous trouvez un terrain d'atterrissage en Tarn-et-Garonne, dans un premier temps sur une mission d'EDF autour de la centrale de Golfech. Vous êtes très centrale nucléaire. Vous,
bah, c'est une CEDF qui souvenait de moi. Donc ils ont voulu me repêcher.
Dans votre genre. Et là, vous rencontrez Jean-Michel Bailey. Et là, c'est qui est président du conseil général, comme on disait à l'époque, du Tarn-et-Garonne. Donc il va l'être entre 85 et 2015, donc 30 ans. Vous faites un portrait extrêmement passionnant de Bailey, qui est loin du surnom dont l'avait affublé le canard enchaîné, le veau élevé sous la mer. Hein,
que je reprends dans le bouquin, d'ailleurs.
Que vous citez, oui, voilà. Et c'est vraiment passionnant. Il y a un passage que je vais lire, c'est page 108, et je trouve qu'il dit bien les choses. Je vous cite, c'est Bailey qui parle. Il vous dit à un moment, « Je connais très bien Gilbert Mitterrand, j'étais un cancre et lui un dilettante. » Alors, nos parents nous ont placés tous les deux dans une boîte à bac en Suisse. Il vous dit ça un jour. Il ajoute sarcastique, ça ne m'a pas empêché de passer quatre fois le bachot avant de le réussir. Alors, Bailey, c'est quand même une particularité. C'est le propriétaire, l'héritier de la Dépêche du Midi. Hein, donc, le grand journal radical socialiste, hein, avec une mère... qui va être à la tête du journal suite au décès accidentel de Jean Bailey. Qu'est-ce qui vous a apporté, Bailey ?
Bailey, il m'a apporté une très grande bienveillance. Voilà, une très grande bienveillance. Alors, à contre-emploi complètement de son... comment dirais-je, de sa caricature.
Oui, c'est ça.
Donc, j'arrive en Tarn-et-Garonne. J'ai là un président dynastique... président et maire de l'Orzajat dynastique, autant haï que aimé par quelques proches et assez largement haï par les uns et par les autres, dont probablement la jeunesse a été tumultueuse, peut-être torturée, parce que son père a fait Buchenwald, mais sa mère...
Sa maman était juive
algéroise, et elle a recruté René Bousquet, l'homme de la rafle du Veldiv, dont on dit qu'elle a fait plus que le recruter, je veux dire, à la Dépêche du Midi. Donc, j'ai jamais pu parler de ça avec Jean-Michel Bailey. Là, il ferme les écoutilles.
D'accord.
On ne peut pas parler de ça. Mais en tout cas, j'apprends très vite que finalement, les Bousquet, Bailey et les Mitterrand sont proches.
Hein. Grand soutien de François Mitterrand, voilà, à la campagne de 60.
Voilà. Et donc, Bailey a été pour moi quelqu'un qui a été extrêmement bienveillant parce que je ne l'ai pas trop ménagé. J'étais visiblement pas très attaché au Tarn-et-Garonne. Je regardais un peu ailleurs. Il m'a même rappelé à son ministère quand il a été secrétaire d'État aux Affaires étrangères de Pierre Joxe. Ouais. Hein, donc j'étais dans le sous-cabinet de Pierre Joxe. C'était quand même pas inintéressant. Mais c'est en gros quelqu'un, quand il vous donne son amitié, vous l'avez pour la vie. Et il est toujours secourable quand il se passe quelque chose. Et il ne veut pas savoir quoi. Et donc, voilà, c'est une personnalité, moi, personnellement, que j'ai beaucoup appréciée. Quand je dis ça, je suis à contre-courant, évidemment, de l'image générale de cet enfant gâté qui est roulé en Ferrari à 18 ans dans les petites rues, dans des petites routes départementales du Tarn-et-Garonne.
Et il vous fait découvrir aussi ce que c'est que la vie politique à la campagne, quoi. Hein.
Ah oui,
ça, dans un département qui est le Tarn-et-Garonne. Alors vous allez connaître ça après avec Philippe Madrel. Je vais dire presque une plus grande échelle parce que c'est pas les mêmes tailles de département. Il y a des scènes. Vous avez un vrai talent de conteur et de narrateur. Il faut le dire.
Toutes ces scènes sont évidemment authentiques.
Hein. Et on a l'impression d'assister à un film, quoi. Hein.
Ouais, il y a un peu du Pagnol, y compris avec le côté très attendrissant de Manon des Sources. Quoi, dans la vie rurale tarn-et-garonnaise et dans la vie élective tarn-et-garonnaise, avec des personnalités qui pour moi étaient extrêmement attachantes.
Où les étiquettes politiques n'ont pas vraiment d'importance.
Ah non, enfin, si vous voulez, quand je suis arrivé là-bas, faut bien voir que le Parti socialiste local était le premier opposant de Bailey. Mais Bailey était au gouvernement socialiste à l'époque de Laurent Fabius. C'est-à-dire que Bailey était... le patron d'une des composantes de la majorité de l'Union de la Gauche, voilà, et il était l'opposant du PS en Tarn-et-Garonne. Donc c'était assez compliqué pour moi de recaler le paysage politique, mais ça a été vraiment un moment, d'initiation à la vie politique concrète. Voilà. pragmatique, c'est-à-dire essayer d'améliorer la vie des gens, hein, et pas trop se poser de problèmes philosophiques, et avec des personnalités de droite et de gauche. Ça m'a aussi fait fendre l'armure. J'ai toujours eu horreur du sectarisme, parce qu'il y a des gens bien partout. Et là-bas, j'ai trouvé des gens formidables, de droite et de gauche. Les étiquettes étaient assez contingentes pour tous ces gens. Ils étaient très attachés à leur terroir, et ils avaient des personnalités assez étonnantes. Alors, il y avait le braconnier.
Oui, quand il...
Il y avait le notaire qui faisait du monocycle.
Il y a celui à qui les collègues élus payent un cordon pour accrocher les lunettes.
Oui, qui était le même qui dressait des procès-verbaux aux banques supersoniques de l'armée de l'air.
Oui, c'est ça.
Au grand embarras du... des procès-verbaux municipaux, au grand embarras du préfet. Voilà.
Alors, en 88... vous dites court passage en cabinet ministériel chez Bailey, justement, parce que ça, c'est la fin de la cohabitation, la première cohabitation. François Mitterrand est réélu à l'Élysée, Michel Rocard est à Matignon, mais vous restez pas longtemps en cabinet ministériel, parce que Philippe Madrel récupère le Conseil général. C'est le court intermède qu'il va laisser à la droite entre 85 et 88. Jacques Vallade est donc battu. Et Philippe Madrel vous appelle pour que vous dirigiez son cabinet au Conseil général.
De la Gironde.
De la Gironde. Et là, c'est assez, j'allais dire, c'est presque une reconstitution de Ligue dissoute, parce que vous allez retrouver Alain Rousset qui, lui, vient d'être élu conseiller général du canton, d'un des cantons de Pessac, en 88. Philippe Madrel, que vous avez connu comme président du conseil régional, donc on l'a dit tout à l'heure, de 82 à 85. Et là, avec Philippe Madrel, vous allez avoir un très long compagnonnage qui se construit. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné chez Philippe Madrel ?
Oh ben, chez Madrel, c'était la vista politique. Et une vista politique dont je suis convaincu qu'il avait lui-même des difficultés à la définir. C'était un intuitif absolu de la politique, et il se trompait rarement. C'est-à-dire qu'en réalité, il avait une vision des rapports de force, des hommes et des situations absolument exceptionnelles. Madrel avait en outre comme très grande qualité sa lucidité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait une carrière très longue. Il n'a jamais été battu en combat singulier, en seul à seul, jamais en près de 50 ans de carrière. Il a été député pendant de très nombreuses années.
Sénateur. Voilà.
Et il a toujours joué dans les pattes des grands. C'est-à-dire qu'il a réussi ça dans les pattes de Chaban, qui quand même dominait le département de la tête et des épaules, et après dans celle de Juppé, qui quand même était une personnalité très importante. Et c'était un personnage probablement jugé atypique par quelqu'un comme Juppé, qui lui était hyper structuré. L'ENA, l'École nationale supérieure, haut fonctionnaire, inspection des finances. Et là, il trouve un type qui est prof d'anglais. Quand il est arrivé, Juppé, il a commencé à essayer de tâter le terrain. Et très vite, le rapport de Juppé à Madrel, ça a été celui de la truffe d'un chien à un hérisson. Il s'est dit, je comprends pas comment ça se passe, mais...
Dangereux.
Mais dangereux, voilà. Qui s'y frotte, s'y pique. Et Madrel était quelqu'un d'extrêmement avisé politiquement. Il avait ceci de particulier, c'est qu'il était très attaché à son parti, tout en étant très rassembleur. Il a digéré des gens de droite.
Le plus connu, c'est le Caudet.
Le plus connu, c'est le Caudet. Digéré. Mais il y en a d'autres qu'il a été chercher, qui n'étaient absolument pas militants du PS. Il les a pris, il a dit on va les soutenir pour être conseillers départementaux. C'est lui qui faisait les désignations. Une fois que les types étaient élus, ils devenaient socialistes, comme Bernard Dussault à Montségur.
Exactement. Voilà.
Et bien d'autres. Donc c'était il avait une très très grande ingénierie politique, un savoir-faire politique exceptionnalissime. Et puis c'était un grand humaniste. Et pour le reste, c'était quelqu'un d'assez peu sûr de lui.
C'est ça qui est étonnant.
D'assez timide. Et on a fait un attelage formidable parce que moi, je lui ai apporté de la sécurité psychologique. C'est là où j'ai eu la conviction au bout d'un certain temps que ce que l'on attendait d'un cabinet politique, quand on est un élu, c'est de la sécurité.
Mais c'est ce que vous avez, Gilles Savary, c'est ce que vous avez eu, vous aussi, ressenti quand vous avez été le politique vis-à-vis de votre entourage ?
Ah, bien sûr.
Oui.
Moi, quand je suis avec... quand j'étais avec Philippe Buisson, mon petit commando, Philippe Buisson, aujourd'hui maire de Libourne.
Dubois, Bonnataire.
Bertrand Dubois, aujourd'hui directeur de cabinet de la métropole, ou Laurent Bonnataire.
Maire d'une commune de
Rouen. J'avais une équipe qui tenait à distance à peu près tout le monde. Voilà. Et c'était hyper confortable.
Et qui vous sécurise.
Et donc, si vous voulez être un bon collaborateur d'élus, il faut produire de la sécurité. Après, vous pouvez avoir de l'ingénierie, vous pouvez avoir des compétences, mais de la sécurité. Tellement ce métier est déstabilisant, tellement il est, comment dirais-je, soumis à des aléas, des pressions, des événements exceptionnels. Tous les matins, quand vous levez en politique, vous ne connaissez pas votre agenda. Il va changer toute la journée. Il peut être bousculé par le décès d'une personnalité locale, par un accident très lourd dans un collège, ou appuie ce gain sur la route, bref, ou par des feux de forêt majeurs, comme on l'a connu au Porche, comme en 2022. Bref, c'est un aléa permanent, donc c'est de l'adaptation permanente, et il vous faut autour de vous des gens qui ont des réflexes et qui vous rassurent.
Je reviens à Philippe Mandrel, vous m'avez dit, vous le réécrivez dans le livre, il avait aussi une sorte de préscience, il n'a jamais boxé dans la catégorie au-dessus de la sienne.
Mandrel, sa force, c'est sa lucidité. C'est-à-dire qu'il il n'affrontait pas Chaban.
Il esquivait.
Il n'affrontait pas Juppé, il esquivait. Et d'une certaine façon, il s'en accommodait de façon... s'en accommodait tout à fait, avec même une certaine admiration, non feinte, je veux dire, avec beaucoup de courtoisie. Il n'y avait jamais, d'inconvenance ou de sectarisme à leur égard. Mais, d'un autre côté, il avait son périmètre, et sur son périmètre, il était très dur à prendre.
Et il devenait une espèce de taureau de combat pendant une campagne électorale. Et puis, une fois que c'était, que c'était terminé...
Il se transfigurait complètement. Ouais. C'était un homme assez doux, très civil, très courtois, y compris avec ses opposants, dans la vie privée, dans la vie... extrêmement sympathique. Il pouvait... avoir beaucoup de sympathie pour tel ou tel de ses opposants, y compris les plus conséquents, comme Hugues Martin, par exemple. Et par contre, il avait un tempérament de sportif. C'est-à-dire que...
Qu'il avait été dans sa jeunesse.
Il commençait à frétiller quand arrivait une campagne électorale, et alors là, il était absolument redoutable.
Là, vous avez des expressions, vous dites, il part à saut et à gambade, mais vraiment, il court partout en Gironde.
Oui, c'est ça.
Vous pouvez pas l'arrêter.
À longueur de journée, en plus, il aimait les gens. Je vous dis que c'est un humaniste. Le courant passé, avec Mandrel, le courant passé. Voilà. Et puis, il avait ce qu'on a perdu aujourd'hui avec le peuple, à gauche comme à droite, qui explique largement la montée du RN. Il partageait les émotions du peuple. Il les partageait sincèrement. Je veux dire... Et d'un autre côté, il était admiratif de la très grande diversité des expressions de savoir-faire élémentaire. Un chasseur l'intéressait, un artisan l'intéressait, et ce courant passait. C'était quelqu'un d'extrêmement empathique. On a fait vraiment tous les deux une équipe extrêmement proche. Au-delà de ce que beaucoup de gens peuvent imaginer, ça a été extrêmement proche. On a fait parfois des arbitrages à deux, alors, extrêmement rudes.
Ce qui est passionnant, on n'a pas le temps de détailler. Il faut lire la partie sur les Girondins de Bordeaux, quand vous disiez, quand il était dans son domaine et son territoire, comment il ose dire non à Chaban sur une garantie d'emprunt pour les Girondins. Et c'est vous qui êtes chargé d'aller porter le message à Jacques Chaban-Delmas. Là, il y a des pages, il y a deux pages absolument passionnantes.
Oui, Mandrel avait ceci de particulier. C'était éloge de la fuite quand les choses étaient un peu dures. Il abdiquait pas. C'était pas la reddition, mais il avait un art de la fuite consommé, si vous voulez. Et donc là, sur les Girondins, c'était très compliqué. Une grande partie, y compris de sa majorité, souhaitait qu'on réponde à Chaban.
Et dans son entourage immédiat.
Et oui, dans son entourage immédiat, il y avait des gens qui étaient proches des Girondins. Et puis, vous savez, parmi les conseillers départementaux, il y en a qui étaient vice-présidents de la communauté urbaine, dont le président était Chaban. Donc, ils avaient parti lié. Donc, c'était très compliqué. Donc, on partait sur le papier. En plus, lui adorait le sport, Mandrel. Sur le papier, on partait battu, quoi. Mais de l'autre côté, le système Chaban se délitait complètement. Il allait dans le mur. La ville de Bordeaux était d'ailleurs, quand Juppé l'a récupéré, en très mauvais état. Financier, je veux dire. Et donc, on ne voulait pas l'accompagner dans ce mur. Ça a été très compliqué. Donc, on a dit non à la garantie des Girondins. J'ai été très largement en première ligne. Mandrel tremblait de passer devant son conseil départemental, il a finalement arbitré en ma faveur, en disant « faut y aller et dire non ». Ce jour-là, d'ailleurs, Bèze est venu dans les travées pour mettre de la pression. Et ça s'est bien passé, finalement, y compris les socialistes qui avaient dit qu'ils voteraient pour la garantie des Girondins et contre lui, ont voté avec lui. Donc voilà. Mais il m'avait demandé d'aller voir Chaban pour lui dire qu'il allait faire ça.
Là c'est alors, deux pages qu'il faut lire.
Alors là, c'est absolument hallucinant, quoi, la rencontre avec Chaban.
On va laisser les lecteurs découvrir. Il y a un moment que vous dites, que vous qualifiez d'ailleurs un peu de fondateur aussi dans votre engagement politique, c'est le débat autour du traité de Maastricht. Alors, on est en septembre 92, vous vous engagez pour le oui, vous allez le refaire, cet engagement pour le oui. Ça va vous coûter d'ailleurs votre mandat de parlementaire européen en 2005. En 92, vous êtes favorable au oui, vous montez d'ailleurs une petite équipe à Bordeaux en sortant, j'allais dire, de sa retraite, le préfet Delaunay, le papa de Michel Delaunay, comme président du comité de soutien pour le oui. Et vous êtes très impressionné par un débat que vous suivez à la télévision le 3 septembre 1992. C'est le débat Mitterrand-Seguin. Alors, on reviendra tout à l'heure sur François Mitterrand, parce que je voudrais que vous en parliez. Ce débat, vous dites, c'est un sommet politique, c'est page 220 et suivante dans votre livre. Ce débat Mitterrand-Seguin, qu'est-ce qu'il vous fait dire de ce que peut être la politique à un tel niveau?
D'abord, c'est un débat où les deux protagonistes, Seguin comme Mitterrand, sur un sujet qui divisait profondément le pays, qui allait jusqu'à diviser les partis politiques. Le Parti socialiste, il y avait beaucoup qui traînaient la patte sur la question de Maastricht. Sur un sujet qui était tectonique, considérable, l'abolition d'une monnaie nationale vieille de 8 siècles. C'est pas tout à fait rien. C'est pas des décisions. Dire à son pays, on va renoncer à la monnaie nationale, tout à fait considérable. Et donc, ils ont été soumis, les deux, Mitterrand et Seguin, à tous les exercices médiatiques, télévisuels, connus à l'époque en matière de débat politique. Un face-à-face, Seguin-Mitterrand. Une rencontre avec un panel de citoyens.
Grand amphi de la Sorbonne.
Et enfin, une rencontre avec un panel de journalistes spécialisés, dans lequel Dormesson n'a pas été avare de talent. Voilà. Tout ça durait éternellement. Et là, on a vu un débat sortir complètement du cadre technique, c'est-à-dire, en gros, nous nous expliquons pas vraiment le traité, mais nous expliquons le sens des choses.
La philosophie, quoi.
Pourquoi est-ce que moi, je vais voter pour, et pourquoi est-ce que moi, je vais voter contre, Seguin, et Mitterrand, pourquoi est-ce que je vais voter pour. Moi, j'ai été très touché que le président de la République, Mitterrand, dont on disait qu'il était un peu ondoyant, qu'il avait des convictions moyennes, que il avait mis la main sur la gauche par opportunisme politique, après des années d'errance politique. Bon, voilà. C'est-à-dire, un grand ingénieur de la conquête du pouvoir, mais un homme à faible conviction. Là, je le vois se sortir les tripes dans un référendum de tous les dangers, parce que l'opinion publique n'y était pas très favorable. D'ailleurs, le résultat...
51,5%.
Voilà, moins de 52%. Et puis face à un adversaire de très haute qualité, vantant la France éternelle, la souveraineté, Philippe Séguin. Voilà. Donc j'ai été ébloui par ce débat. Je suis resté toute la soirée devant ma télévision. Et puis j'ai appris, je ne sais pas si c'est quelques mois ou quelques années plus tard, que Mitterrand l'avait fait avec un hôpital de campagne à proximité, du fait des souffrances considérables qui l'ont duré à l'époque, du fait de son cancer, du cancer qui allait l'emporter. Et ce qui m'a énormément touché, c'est que cet homme-là mène ce débat de sincérité absolue. Voilà. Alors que c'était un grand manœuvrier politique, que personne n'en était dupe. Et là, je me suis dit, quand même, la politique accède à un niveau de vérité, d'engagement de la responsabilité, de vision historique, que j'ai rarement connu. Je pense que De Gaulle a été du même acabit, peut-être encore supérieur à une époque très difficile où il était totalement isolé à Londres. Mais en tout cas, ce sont des moments de grâce politique, comme hélas, on en aurait besoin aujourd'hui.
Un peu plus d'un an plus tard, 15 mois plus tard, vous allez, pour le coup, vous l'aviez déjà rencontré François Mitterrand dans les entourages, dans vos fonctions de collaborateur, d'élus, à l'occasion de ces déplacements, en particulier en Aquitaine. Mais là, vous êtes invité, à votre grande surprise, le 7 décembre 1993, dans un petit village à côté de Libourne, qui s'appelle Auriol, à déjeuner avec François Mitterrand, président de la République, qui est déjà dans sa deuxième cohabitation. Lors de l'inauguration de la rocade de Libourne. Voilà.
Et
du pont qui va devenir le pont, qui s'appelait le pont d'Arcin, et qui va prendre le nom de pont Mitterrand à la disparition de François Mitterrand en 96. Ce que vous en dites, les pages que vous écrivez sur ce déjeuner, vous êtes très peu nombreux, vous êtes peut-être une douzaine à peu près.
Ah, tout cassé.
Oui, avec Vautrin,
avec Boussineau.
Et Boussineau, voilà. Georges Laillère.
Et Georges Laillère.
Sur lequel on n'a pas le temps de parler. Mais
son vieux copain, mais il y a un petit chapitre.
En soi, exactement, voilà.
Voilà.
Je pensais aux bréviaires des politiciens de Mazarin, grand texte qui donne 5 préceptes au jeune roi qu'il est en train de former. Il y en a un, c'est simule et dissimule. C'était François Mitterrand, ça?
Oui, François Mitterrand est un grand dissimulateur. D'abord, il a dissimulé avec un maximum de science sa période pétainiste, parce qu'elle n'était pas de saison après-guerre. Même si aujourd'hui on relativise tout ça, il a quand même réussi à dissimuler. Il a essayé de dissimuler avec beaucoup de science et de détermination ses engagements que l'on pourrait qualifier d'extrême droite aujourd'hui, c'est-à-dire très proche, si ce n'est lui-même militant de Cagoulard, hein, et donc de gens de l'Action française. Qui était assez banal avant-guerre, mais n'était pas bon. Il a dissimulé sa double vie. Bref, chez Mitterrand, effectivement, il y a Mazarin quelque part. Hein, il y a quelqu'un d'insondable, mais de totalement surplombant. C'est-à-dire que ce qui me séduit chez Mitterrand, c'est dans le niveau qui lui donne une capacité d'analyse, donc de réaction au poste où il était en général assez puissante. La culture politique, je ne pense pas qu'on puisse faire de politique sans culture. Autrement, c'est la barbarie qui nous guette. C'est pour ça que je suis inquiet quand je vois Trump aujourd'hui aux manettes. Hein, je veux dire, on ne peut pas faire de la politique de café du commerce à tous les niveaux, parce qu'on joue avec l'âme des peuples, on joue avec l'identité des nations, on joue avec des choses, avec de l'humain, bon, bref. Et donc, il avait toutes ces qualités-là. Et puis, ce qui me plaisait énormément, c'est que c'était une synthèse de la France, quoi. C'était une synthèse de son histoire et de sa géographie. C'est-à-dire qu'il avait un pied à droite, un pied à gauche.
Malaisac et la vis, quoi.
Il a passé son temps à conquérir le pouvoir à Paris et il ne s'est jamais détaché de la province ou même des provinces. Il avait ses lieux de mémoire et d'amitié, Cluny, Solutré, l'Auvergne chez ses copains auvergnats. Et Mitterrand n'a jamais lâché ses amis, ni ses amis entre guillemets sulfureux de l'époque de la cagoule, hein, les Dalles, les Bettencourt,
ou de la deuxième guerre mondiale,
les Bénouville, qui étaient quand même des gens très à droite, on dirait aujourd'hui extrême droite, hein, ni les gens simples, voyez. Donc on a été prendre ce repas à Auriol dans un petit gîte rural où là il frétillait d'aise à la fois devant les plats qui nous étaient servis, qui étaient extrêmement simples, mais aussi devant quelques grands intellectuels comme Jean Vautrin, Prix Goncourt, qui était là présent.
Et alors, ce qui est aussi fort, parce que ça va rejoindre votre trajectoire, moi j'étais très touché par votre évocation, évidemment, sur votre passage universitaire 92-99, et évidemment, vous imaginez pourquoi.
Puisque, enseignant à Sciences Po.
Voilà, on s'est retrouvé à Sciences Po Bordeaux. Et je pensais, justement, en vous lisant, dans votre chapitre qui est très fort, qui s'appelle « La métaphysique d'Auschwitz », vous dites « Cela a définitivement scellé mon inversion des nationalismes et du racisme et décuplé mon idéal européen. » Parce qu'il y a un passage où vous évoquez votre visite seule sur le complexe du camp d'extermination et de concentration d'Auschwitz-Birkenau, tout seul dans la neige, en plein hiver. Et on se souvient de la phrase de François Mitterrand, Bundestag, au Parlement de Strasbourg, pardon, en 1995, il va quitter la présidence. Le nationalisme, c'est la guerre. C'est aussi peut-être le point commun, c'est que vous êtes aussi un grand Européen.
Ah oui, je suis un grand Européen parce que j'ai la conviction absolue que les nationalismes ont mis ce continent à feu et à sang, alors que nous avons pratiquement toute la même histoire. Quand on navigue en Europe, en Pologne ou ailleurs, on s'aperçoit qu'on a les princes d'Anjou qui sont rois de Pologne ou reines de Pologne, et ainsi de suite. Donc je veux dire, la féodalité a imbriqué complètement les destins de tous ces pays. Très curieusement, on les a imbriqués par la guerre. Mais dans le vaste monde qui est le nôtre, et après les horreurs du XXe siècle, on pouvait penser, je pouvais penser dans mon militantisme européen qu'on ne reverrait plus jamais ça, et qu'en tout cas, il fallait y œuvrer. Voilà. Et j'ai eu deux très grands moments de révélation de tout ça. Le premier, c'est quand j'ai franchi le rideau de fer pour aller à Prague en 1975.
Pour un mariage.
Donc voilà, pour un mariage. Donc on était sous l'ordre soviétique à l'époque. Et là, je me suis aperçu que ces gens pensaient comme nous, avaient la même culture. Bon, ils étaient simplement cadenassés derrière les rideaux de fer. Mais j'étais absolument ébloui aussi par le niveau culturel que j'ai trouvé là-bas. Ébloui. À l'époque, on était quand même, quand on était des gens simples comme moi, on était quand même sous propagande occidentale. Là-bas, c'était des gens qui ne mangeaient pas à leur faim, qui étaient sous-développés.
Qui étaient tous soviétiques.
Voilà, un peuple qui était complètement... soumis, opprimés. Oui, ils cherchaient la liberté, c'est vrai, mais je veux dire, il y avait un niveau de développement, notamment culturel, musical, éducatif, extraordinaire. Donc, si vous voulez, j'ai eu cette révélation, mais quelle est la différence, si c'était que c'est la politique qui a mis un mur entre les uns et les autres. Donc ça a été la première chose. Puis, le deuxième, ça a été ma déambulation à moins 18 degrés entre Auschwitz et Birkenau, qui là... enfoncer le clou, si je puis dire. Et puis Mitterrand est passé par là. C'est ma part de mitterrandisme. Je ne suis pas mitterrandiste pour tout, mais c'est ma part de mitterrandisme, oui.
Alors, il faut qu'on avance, mais encore une fois, le livre est tellement dense que c'est une vraie richesse. Il faut qu'on parle de la séquence à partir de 95. Alors, je passe sur votre candidature au cantonal de 94. Vous êtes un peu en mission, là. Sur Bordeaux, mais c'est un peu manière d'appréhender Bordeaux. Et puis, arrive donc Alain Juppé, 1995, juin 95, les municipales. Vous êtes tête de liste pour le Parti socialiste et pour le Parti communiste. Vous avez aussi affaire à une dissidence d'un ancien socialiste, quelqu'un qui a quitté le Parti socialiste, c'est François-Xavier Bordeau. Je passe sur les circonstances de la campagne avec l'arrivée d'Alain Juppé. Dans votre livre, ce qui est assez passionnant, c'est qu'on voit bien que vos relations avec Juppé n'ont pas toujours été empreintes d'une courtoisie républicaine, parfois minimale. Vous aviez une singulière capacité à le faire sortir de ses gonds. Bon, c'était pas très compliqué d'ailleurs, parce qu'il dégoupillait assez facilement. Dans votre livre, vous n'êtes pas du tout avare de compliments sur le mandat d'Alain Juppé. Ce qui vous pose davantage de problèmes et qui vous a posé problème, c'est sa méthode. Page 273, comme vous avez toujours le sens des formules, vous dites « Il se comportait comme un caterpillar dans un orchestre symphonique ». C'est quoi votre bilan de Juppé ?
Le bilan de Juppé pour la ville, je pense qu'il est globalement très positif. Très franchement, je sais que dès que je dis ça à un camarade socialiste, il me dit que c'est pas vrai. Mais enfin bon, il y a avant et après. Il suffit de voir comment les Parisiens, par exemple, j'en côtoie encore beaucoup, aux fonctionnaires élus, des choses comme ça, ont inversé l'image qu'ils avaient de Bordeaux. À la fin de Chaban, c'était quand même une image crépusculaire. Hein, je veux dire, une espèce de cessez-le-feu à 18h30. Après, cette ville est devenue... aujourd'hui, est une ville de destination touristique de week-end d'étrangers, tellement elle attire et tellement elle est devenue agréable, belle. Voilà. Donc je crois qu'il y a eu une transformation urbaine indéniable qu'on doit à Juppé. Il a été plutôt un intendant qu'un politique. C'est-à-dire, dans le même temps où il transformait la ville, il perdait pied politiquement. Je veux dire, nous n'avons pas cessé de lui grignoter d'abord des cantons, et puis jusqu'à cette victoire extraordinaire de Michel Delaunay,
En 2007.
En 2017, législative.
En 2007.
Alors, 2007, pardon, 2007, législative, alors qu'il était numéro 2 du gouvernement et qu'il y restait qu'un mois. Il n'avait pas pu
c'est
dire.
C'est sur la deuxième circonscription.
Et donc,
pas sur la ville, hein, c'est sur la deuxième circonscription.
C'était sur la circonscription.
Intramuros.
Intramuros, c'est celle.
On disait la circonscription du maire.
La circonscription fétiche du maire de Chaban.
Et de Chaban. Voilà.
Et donc. Donc Juppé a été finalement son bilan politique pour son camp est pas très bon. Hein. D'ailleurs, la fin de Juppé, c'est très vite passé chez Pierre Urmic. Hein. Mais par contre, son bilan d'intendant est absolument remarquable. Mmh. Je dirais d'ailleurs que Bordeaux et la Gironde et l'Aquitaine ont eu la chance d'avoir, le duo Juppé-Rousset aux manettes en même temps, l'un s'occupant de la transformation de la ville et l'autre s'occupant beaucoup d'économie et d'université avec un réel bonheur. Et ça a été une apogée pour Bordeaux et l'Aquitaine par rapport à ce que, quand moi je suis rentré à la région en 82, on subissait de domination de Toulouse, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a eu une transformation. Par ailleurs, je vous dirais pas que j'ai gardé le meilleur souvenir de ses relations humaines. Hein. Je veux dire, c'est quelqu'un qui ignorait ses oppositions. On était très extérieur au conseil municipal, bien qu'on y siégeait. Tout était fait pour qu'on accède à rien. Les dossiers nous arrivaient le vendredi soir, une pile comme ça, pour en délibérer le lundi après-midi. Entre les deux, on n'avait pas le temps de demander à la mairie ce qu'il y avait dans les dossiers, puisqu'elle était fermée, c'était le week-end. Donc tout était à l'avenant. Il était extrêmement tranchant. Il avait horreur de la contradiction, ça le mettait dans des états pas possibles. Et Dieu sait s'il avait des capacités de travail remarquables, considérables. Et Dieu sait s'il avait prenait la bonne décision. Mais quand il prenait la mauvaise, c'est-à-dire quand il savait qu'il avait tort, là, il devenait purement et simplement détestable. Alors, c'est quelqu'un qui ne concédait rien, même pas, éventuellement, une bonne idée à l'opposition.
Il y a un chapitre consacré au pont ouvrant. Alors, on ne va pas détailler. C'est assez passionnant parce que finalement, vous êtes hostile à cette idée qu'il avait de faire un pont au droit de la place des Quinconces.
Un pont fixe, un pont qui condamnait le port, surtout.
Voilà. Et puis, in fine, on arrive au pont qui va devenir le pont Chaban-Delmas, le pont Levant. Hein, et ça, c'est tout à fait passionnant. Vous m'avez dit récemment dans une émission de télévision à France 3 Aquitaine, j'ai jamais réussi à trancher pour Alain Juppé sur le fait de savoir s'il était dans ses rapports humains un vrai vachard ou un grand timide.
Oui, je n'ai jamais réussi à trancher. Je ne sais pas du tout. Il n'a jamais prêté au moindre relâchement à notre égard. Vous voyez, il n'y a pas. Philippe Madrel pouvait être très dur en tribune au département, et puis à la buvette, comme à l'Assemblée nationale, se relâcher. Vous voyez, lui, jamais aucun relâchement à notre égard, c'est-à-dire toujours une très grande distance. Voilà.
Alors, il y a toute une partie du livre où on découvre un Gilles Savary qui est assez à l'aise dans les différents courants d'un fleuve pas tranquille qui s'appelle le Parti socialiste. Parce que vous avez toute une partie de votre vie politique qui a été dans les instances nationales. Alors, vous n'étiez pas, comme on dit, un premier couteau, mais vous étiez dans l'entourage de Laurent Fabius jusqu'à la rupture à propos du traité constitutionnel européen du printemps 2005. Mais là, ça vous permet en particulier de rencontrer des personnalités politiques. Alors, il y en a trois dont vous faites le portrait de plusieurs. Mais il y a Laurent Fabius, Ségolène Royal et François Hollande. Alors, on n'a pas le temps de rentrer sur ces portraits, mais c'est quand même assez extraordinaire. Ségolène Royal, vous avez quand même été un de ces porte-parole de pré-campagne au moment de la primaire de 2006-2007.
Improvisé sur un coup de fil, elle me l'a demandé, on était trois, donc voilà. Oui, j'ai pris fait et cause pour Ségolène Royal parce que il me semblait discerner, si vous voulez, une espèce de d'obsolescence du Parti socialiste. Je trouvais qu'il se sclérosait et il n'avait plus d'idées, il était simplement transformé en
en
forum de sélection des présidentiables. C'est ça qui lui arrivait. Mitterrand lui a inventé l'alternance perpétuelle, y compris avec la cohabitation. À un moment donné, le Parti socialiste a arrêté de penser, de faire un projet. Et il est devenu voilà, une espèce d'arène de compétition entre énarques, chacun ayant son écurie, pour savoir quel serait le prochain président. Quoi. Voilà. C'était ça le sujet. Je voyais bien, ça me fatiguait un peu tout ça. Je décris le congrès de Liévin, le fonctionnement d'un congrès. On voyait arriver chacun avec sa bande. Là, voilà. On faisait des concours de beauté plus à gauche que moi, tu meurs.
Les universités
y compris chez des très grands bourgeois. Voilà. Et donc, on sentait bien quand même que ce parti n'avait plus la vitalité d'un parti, celle d'un projet. Hein. Il était là pour sélectionner le futur président, puisque Mitterrand avait donné à cette génération le privilège d'avoir l'alternance perpétuelle, d'avoir fait du Parti socialiste un parti crédible pour gouverner, et non pas simplement de passage, comme c'était le cas avant lui. Hein. C'est quand même son legs.
Alors, Ségolène Royal, qu'est-ce qui vous a semblé apporter
Et donc, Ségolène Royal, elle a... Elle est immédiatement partie sur les bordures avec Désir d'avenir et son histoire de démocratie participative. Et là, on a vu dans les salles de meeting, c'est un symptôme. Je l'ai retrouvé avec Macron. C'est pour ça que je dis que quelque part, Royal était peut-être une avant-garde du macronisme. Elle s'est adressée à la société civile. Elle s'est décalée des jeux internes du parti parce qu'elle savait qu'elle n'avait aucune chance à l'intérieur de ce monde extrêmement machiste. Et tout d'un coup, on a vu les salles se remplir de gens que l'on ne voyait pas.
Dans une dimension de quasi-télévangéliste.
Ah oui, bien sûr, quasi-télévangéliste, mais avec quand même un vrai talent pour attirer la population. Alors, quand vous êtes dans une démocratie, à un moment donné, vous dites que quand même, il faut pouvoir parler au peuple. Alors, je sais bien que ce n'est pas joli, on explique que c'est du populisme. Mais enfin, quand on ne parle pas au peuple, on faisait au Parti Socialiste, dès qu'on faisait une réunion publique, on appelait les militants pour leur demander de venir avec leur beau-frère, leur belle-mère, leur grand-oncle et leur tante. On avait en face que des fonctionnaires, mais zéro chef d'entreprise. Enfin, on n'avait pas la vie, quoi. On n'avait pas la vie. Et ce qui m'a séduit chez Ségolène Royal, c'est que d'un seul coup, elle a rebranché la gauche avec la diversité du peuple français. Et une grande diversité sociologique. Ce qu'aura fait Macron, ce que fera Macron.
Ce qui vous a moins séduit, c'est des traits de comportement.
Ah non, mais après, c'est devenu. Royal m'est apparu dans toute sa splendeur. Hein, c'est-à-dire, ce que je décris, contradictoire, mensongère, légère.
Cabotine.
Sautant sur tout ce qui se présente. Mais elle ne manquait pas d'intuition. Et je voudrais quand même souligner qu'elle a fait un des meilleurs scores en voix du Parti Socialiste, historiquement, au présidentiel. Un score d'éléphant. Et si le parti l'avait un peu aidé, elle n'aurait pas été loin de basculer Sarkozy.
Et François Hollande, alors vous dites que les grands éléphants, les cadors du PS, Strauss-Kahn, Fabius, etc., le prennent pour un concierge.
Oui, mais François Hollande, sa grande force, c'est son infinie patience. Voilà. Et sa grande habileté. C'est un habile diabolique. Comme tout le monde, il a été servi aussi. Enfin, à un moment donné, en politique, il faut une grosse part de savoir-faire et une petite part de chance. Ça a été vrai pour Mitterrand, ça a été vrai pour Hollande, avec la disparition de Strauss-Kahn de la scène présidentielle. Mais on peut dire qu'il a quand même complètement enfumé tous mes éléphants et tous ces éléphants qui se sentaient dépositaires de Mitterrand et qui ne voyaient absolument pas dans Hollande un successeur éventuel à président de la République. S'il y en avait un sur lequel on pariait pas, c'était Hollande.
Vous avez été député de 2012 à 2017, donc avec lui à l'Élysée. Vous dites, j'étais pas dans les décideurs de l'Assemblée nationale, mais vous aviez une vraie expertise. Irrité d'ailleurs de votre passage au Parlement européen sur les transports, etc. Ouais. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises et vous étiez plutôt considéré comme assez proche de lui. Hein. Vous avez jamais été dans les frondeurs. Vous sortiez toujours un peu étonné des échanges que vous aviez avec lui.
D'abord, j'aime beaucoup sa personnalité parce que Hollande est quelqu'un de, encore une fois, très empathique. C'est-à-dire qu'il a un relationnel, je dirais presque gourmand. Hein. C'est-à-dire qu'il adore rencontrer les gens. Il a un sens de l'autodérision absolument faramineux, beaucoup d'humour. Donc c'est un personnage très intéressant. Enfin, passer un moment avec François Hollande, c'est toujours très agréable. Hein. C'est pas le cas de tous les politiques, y compris de plus conséquents. Mais quand j'allais le voir, oui, parce que j'avais quand même une petite influence sur certains socialistes, quand j'allais voir, il me décrivait la situation et avec une grande lucidité. Mais j'avais l'impression que c'était le coureur cycliste qui était descendu du vélo. Et qui commentait
une étape du Tour de France.
Qui commentait une étape du Tour de France, qui commentait son propre parcours. Et quand je partais, je me dis, où est le décideur dans tout ça? D'accord. Il a fait l'analyse, on la partage. Elle est bonne, elle est parfaitement lucide. Elle est formidable. Et so what? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Donc c'est assez étonnant. Il avait quand même, à mon avis, hérité de son parcours au sein du PS, qui faisait qu'il était considéré comme le concierge de la rue de Solferino par les grands de ce monde, que ce soit Lionel Jospin, Laurent Fabius encore plus.
Martine Aubry, qui le détestait.
Il y avait beaucoup de mépris, Martine Aubry, qui le détestait, Dominique Strauss-Kahn, qui le trouvait léger, enfin bref. Il avait gardé une philosophie assez fataliste, qui pourrait se résumer peut-être par cette assertion de la confusion naît ma synthèse. Voilà. Et donc il pensait que toute situation confuse lui permettait d'émerger à la suite, parce qu'il avait un sens de la synthèse assez extraordinaire. Et c'est ce qui l'a tué pendant son mandat, puisqu'il s'est en réalité laissé totalement ficelé par les frondeurs qui sont sortis vainqueurs de la mandature, mais en ayant détruit le parti.
Alors ça, vous le décrivez par le menu, c'est passionnant. On va terminer avec un moment particulier. Vous allez reconnaître la date. C'est le 27 août 2015. Ça se passe à Léognan, au château Carbonieux. Alors vous dites, mon ami Pierre Legendre, mon ami léognanais, aura entendu Emmanuel Macron encore en 2024 lui dire que c'est là que tout a commencé. Je ne sais pas si vous mesurez la responsabilité qui est la vôtre aujourd'hui dans la situation de la France. Hein. En fait, vous faites venir Emmanuel Macron au château Carbonieux, à Léognan, sur votre circonscription. Il n'est pas tout seul. Il y a Gérard Collomb.
Il n'y avait que des socialistes.
Et que des socialistes. Et puis finalement, votre livre ne va pas plus loin. Il s'arrête à l'élection de Macron. Pour quelles raisons n'avez-vous pas suivi Macron, rallié Macron, contrairement à d'autres députés socialistes à l'époque qui, eux, l'ont fait?
Bon, d'abord, dans le naufrage que nous vivions au sein du PS sur la fin de la mandature Hollande...
C'est-à-dire 2016-2017.
Oui, qui faisait que... Enfin, moi, je prétends, et c'est ma thèse, et je l'affirme, c'est pas Macron qui a tué le Parti Socialiste, c'est le Parti Socialiste qui s'est flingué. Voilà. Mmh. Les frondeurs ont été les plus constants opposants, les plus audibles pendant 5 ans de Hollande, sans que Hollande soit capable d'y mettre un terme, ce que Mitterrand aurait fait en 8 jours. Voilà. En tout cas, ça s'est passé comme ça. Les frondeurs ont fini par gagner, puisque c'est l'un d'entre eux qui a été désigné, Hamon. Il a fait 6%, parce qu'une grande partie de l'électorat du Parti Socialiste était parti chez Macron. On était très inquiets, donc il y avait tout un groupe assez vaste à l'Assemblée nationale et au Sénat, dont la figure tutélaire, on peut le dire, était Gérard Collomb.
Ah, oui, alors, non, tant que maire de Lyon, mais au Sénat, c'était Patria.
Mais Patria, ça a été après. Collomb était sénateur à l'époque.
Oui, d'accord.
Et donc, nous disions, faut quand même essayer de peser pour soutenir Hollande le plus possible. Donc, voilà. Donc, on était les soutiens de Hollande dans deux groupes politiques.
On appelait ça les réformateurs.
Oui, voilà, qui étaient agités de dissensions considérables. Dès qu'on parlait de compétitivité de l'économie française, on avait toute l'aile gauche qui disait, c'est pas possible, on va voter contre, enfin, bon, ainsi de suite. Donc, il y avait ce groupe-là et on s'intéressait à cette jeune étoile montante qui nous avait stupéfait les uns et les autres, dans le travail parlementaire, on n'était pas les seuls hein, d'ailleurs, qui s'appelait Macron et qui nous venait de l'Élysée au poste de ministre des Finances. Et donc, à ce titre, sénateur et député du groupe dit les réformateurs, invite Macron, c'était au château Carbonieux, en août 2015, on ne voyait pas poindre ses intentions présidentielle à l'époque, il n'avait pas de parti politique.
Ça faisait un an qu'il avait rejoint Bercy.
Voilà, il n'était pas organisé, il avait rejoint Bercy. Et on a voulu parler à la fois des projets de loi, et puis tout d'un coup, il nous a parlé de la façon dont il voyait l'avenir de la France, ce qui le préoccupait. Donc c'était assez lumineux. Ça s'est traduit par son bouquin Révolution, dans lequel moi je me retrouve pour beaucoup. Hein, je veux dire, lutter contre le poids des corporatismes, réintroduire le mérite, réintroduire la valeur travail. Bon, c'était un peu tout ça. Les dangers de la sous-compétitivité française par rapport au nouvel ordre géopolitique. Enfin bref, voilà. Donc il est venu à Carbonieux. Puis après, bon. On a connu son parcours en même temps que les frondeurs étaient en train de museler Hollande, d'essayer de lui infliger une primaire ouverte, c'est-à-dire un véritable réquisitoire contre sa mandature grand public entre socialistes, truc de fou. Eh bien, Macron a pris son envol d'une façon absolument stupéfiante. Personne n'y croyait. Pensait pas qu'un type qui avait même pas été concierge d'une commune de 200 habitants dans sa vie, qui n'avait pas de parti politique et pas de financement public, puisqu'ils étaient réservés aux grands partis à travers les parlementaires, pourrait faire cette percée. Voilà. Bon, on en est là. Moi, je vote Macron parce que je ne veux pas voter Hamon. Je m'en explique dans le bouquin. très simplement, mais je ne veux pas passer chez Macron. Alors, j'ai une grande partie de mes collègues qui y passent, hein, qui s'inscrivent très vite à LREM pour, après sa victoire, être désigné. Je me sentais pas bien dans LREM, c'était pas mon parti, c'était pas ma sensibilité. Il y avait une espèce d'arrogance qui flottait là, qui me plaisait pas, d'arrogance en rupture de génération. Tous avant, c'était tous des voyous, mais vous allez voir, on va assainir la vie politique.
Le nouveau monde,
voilà le nouveau monde, avec quand même beaucoup d'arrivisme. Enfin, je dirais presque l'arrivisme comme valeur cardinale. Et je n'ai jamais regretté de ne pas y être entré. Et j'étais, à vrai dire, persuadé que Macron, comme à quelques autres, Le Foll et compagnie, ne mettrait pas de candidat contre moi. Voilà. Il a mis une candidate contre moi qui m'a battu. Ça n'a pas été déshonorant, puisque j'ai été battu à 46,5 à l'époque où même Hamon et Cambadélis ne passaient pas le premier tour. Mais enfin, en politique, il n'y a pas de podium, il n'y a que des vainqueurs.
On va terminer, Gilles Savary, votre histoire, ces mémoires d'entre deux siècles. Est-ce qu'on peut dire que la politique, c'est une drogue dure? Et est-ce que vous avez réussi à vous en sevrer?
Oui, enfin, moi, j'ai la faculté de pouvoir rebondir dans d'autres vies parce que j'ai des pôles d'intérêt très importants. Vous voyez, bon, là, j'écris, j'ai fait du conseil sur les transports, je suis pas malheureux. Je dois dire qu'en 2024, après la dissolution, j'ai eu quelques appels du pied de camarades socialistes en poste.
Pour repartir sur
la circonscription, où là, je vais, je crois, de bonnes chances de récupérer la circonscription. Mais pour moi, c'était terminé parce que j'avais trouvé un autre équilibre de vie. J'en ai fait beaucoup. Là, je peux me consacrer à me cultiver, à courir les musées, à voyager, à aller aux concerts, ce dont je me suis toujours privé, à écrire, accessoirement, des choses banales, mais enfin, quand même, qui me tiennent à cœur, puis à m'occuper de mes petits-enfants et de mes enfants, de revenir vers mes amis, parce que la politique isole dans la multitude. Vous avez l'impression que vous avez une vie sociale très importante, et le jour où vous n'avez plus de mandat, c'est terminé. Il n'y a plus personne. Plus personne. Il n'y a rien qui isole plus que la multitude qui entoure le politique. Voilà. Et donc, j'ai une vie là qui est totalement équilibrée, qui me, pour la fin de mon âge, je sais pas combien de temps ça va durer encore, me convient tout à fait. Et je n'ai pas voulu empiler. En cela, je ne suis pas contaminé. Par contre, il est très difficile de se défaire de l'intérêt pour la politique. Donc, j'ai encore le nez au vent. J'adore commenter la vie politique. J'adore essayer de l'interpréter. Et donc, de ce point de vue-là, je reste... Oui, on s'en remet pas. Je vais vous dire pourquoi on s'en remet pas. Parce que, en réalité, il n'y a pas de métier qui est à ce point ouvert, à 360 degrés, peut-être journaliste, encore généraliste, sur tous les aspects, y compris les plus improbables de la vie, quoi. Alors, quand vous êtes politique, vous pouvez tout faire. Aller visiter des taulards en tôle, visiter des PDG de Total, j'en ai connu... aller dans un SAMU social le soir, faire une maraude, c'est toute la vie sous toutes ses facettes. Non seulement vous êtes ouverte, mais vous bouscule. Et ça, c'est quand même très appréciable de pouvoir faire un parcours de vie où on a, comment dirais-je, ses entrées dans à peu près toutes les facettes de la société et de l'actualité de son époque.
Merci beaucoup, Gilles Savary. Merci.